C'est absurde. Donc on est effectivement tous des produits aléatoires, et ce que je décris, c'est un scénario effectivement qui n'est pas très réjouissant, mais...
Non.
Mais je décris pas ça pour glacer le sang des lecteurs, mais parce que je crois vraiment que c'est ce qui...
Non, mais jusque-là, c'était la science-fiction, quoi, l'homme-robot...
Oui, mais c'est... de ça, on parle beaucoup dans les médias. De l'homme-robot, du clone, l'homme transgénique. Je crois pas du tout que ce soit ça l'avenir de la procréation et l'avenir de l'humanité. Moi, je crois que c'est tout simplement de trier. Mais ce que je décris, c'est des recherches qui se passent actuellement dans des pays asiatiques, en Corée, au Japon en particulier. Ça se passe chez la souris, hein, c'est de la recherche scientifique. Mais tout ce qui se passe chez la souris finit par arriver chez l'homme quand il y a une demande. Et là, vous allez voir qu'il y aura sûrement de la demande. Ils sont en train de fabriquer des gamètes, des ovules ou des spermatozoïdes, à partir de cellules banales, de cellules de la peau, par exemple. Ça veut dire qu'ils peuvent en produire par milliers. Bon, l'homme, il produit, on l'a dit, beaucoup, s'il n'a pas un problème grave, il produit des millions de spermatozoïdes, c'est toujours en excès. Mais pour ce qui est de l'ovule, c'est toujours une cellule rare. Alors que là, on pourra produire, vraisemblablement, si ça fonctionne chez la souris, et ça a l'air d'être bien parti, pourra produire des centaines, des milliers d'ovules, dont autant d'embryons, en fécondant ces ovules. On est en train aujourd'hui d'avoir pour 1000 ou 2000 euros des méthodes qui vont permettre de faire l'analyse de tout le génome. Ça, c'est dans les mois qui viennent. C'est déjà quasiment fait. Et ça veut dire que si on a des milliers d'embryons, qu'on fait l'analyse de tout le génome, on est très discriminant. Et là, on peut vraiment retenir un embryon assez exceptionnel, ce que on n'aurait jamais pu faire, même avec l'eugénisme méchant qui tuait les enfants à la naissance. Il aurait fallu que les gens vivent des milliers, des centaines de milliers d'années pour avoir cette possibilité d'obtenir l'enfant qu'ils souhaitent, en en faisant un à la fois. Là, on va jouer sur un nombre très très important d'embryons, le but étant d'avoir un ou deux enfants, pas davantage, les gens en veulent pas plus. Donc on va faire une sélection drastique. Quand on met les deux en rapport, on s'aperçoit qu'il y a une réponse à une demande potentielle. Alors la demande, elle n'existe pas. Les gens disent pas « faites-moi ça ». Mais il suffit de leur proposer et ils le demanderont. D'autant que, si vous voulez, ce qui freine pour le moment la sélection par cette technique qu'on appelle le diagnostic pré-implantatoire, ce tri d'embryons à partir d'une identification génétique, donc de leur génome. Pour le moment, ça exige une fécondation in vitro façon à la papa, je pourrais dire. Celle qu'on a fait depuis Amandine, bon, c'est toujours la même, c'est-à-dire stimuler la femme, lui faire passer plein d'examens, échographie, prise de sang, prélever ses ovules, tout ça est très pénible. Il n'y a plus besoin de ça, parce que dans ce scénario que nous préparent nos amis asiatiques, il y aurait un prélèvement d'un morceau de peau sur le bras, n'importe où, c'est rien du tout, quoi. Et à partir de ce, tout se fait en labo. Ensuite, on vient pour la transplantation d'embryons. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer le développement de ces technologies? Bon, d'une part, il n'est pas encore démontré que ça va marcher, c'est-à-dire qu'on n'aura pas des petites souris bancales, stériles, bon, c'est pas impossible. Mais j'ai confiance dans la technique pour penser qu'en quelques années, ça va s'arranger, qu'on va remédier à ça, un peu comme avec le clonage chez les animaux, où au début, ils étaient presque tous mal foutus, et maintenant, ça marche très bien. Donc, on va trouver ces recettes-là, et la question à poser, c'est qu'est-ce qui s'opposerait à ce que ça s'applique à tout le monde? Parce que c'est l'intérêt évidemment de la société d'avoir des enfants qui soient pas malades. C'est donc l'intérêt de la sécurité sociale. C'est l'intérêt de l'industrie. C'est l'intérêt d'une société compétitive, forcément. Et c'est aussi l'intérêt des parents d'avoir des enfants qui soient plutôt en bonne santé. Je vois pas ce qui peut s'opposer à ce truc qui me paraît inéluctable et duquel on ne parle jamais. Comme je disais tout à l'heure, on nous parle de clonage, de transgénisme. Mais tout ça, c'est des trucs pour romanciers. C'est amusant, mais c'est pas ça qui va nous tomber dessus. Bon, on me dit que j'ai un discours pessimiste, mais c'est...
Oh non!
Non, n'est-ce pas?
Non.
Mais je vois pas comment tout ça peut s'arrêter, sauf si on change complètement de société. On en revient à la
première. Ah bah voilà!
Si on change de société, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de croissance, qu'on n'a plus besoin de compétitivité, si jamais on remettait ça en cause fondamentalement et qu'on construise une société, comme souhaitait Ivan Illich, convivial, où on pourrait très bien, des gens qui seraient stériles ou qui seraient homosexuels, pourraient sûrement trouver des complicités dans l'environnement pour avoir un enfant, mais sans passer par la case médecine. Donc, je pense que c'est vraiment un problème politique, au bout du compte. C'est une orientation de la société qui nous amène, encore une fois, dans le mur.
Merci, Jacques Testa. Et merci à tous. Alors là, on vous a fait un cadeau, la version intégrale de cet entretien est sur là-bas.org, là-bas.org. Là, c'est une version pour les 52 minutes qui nous sont imparties.